De Gaston Leroux, Les aventures de Chéri Bibi, tome 3, Fatalitas. Chapitre 1, Françoise ment. Il y a de certains moments où le mensonge devient une chose sacrée et dérobe à la vérité son éclat, son rayonnement, sa force irrésistible de persuasion. On ne voit point d'ombre alors sur la figure qui ment, ni de trouble dans le regard. Et cependant, Françoise ne sait pas mentir. Elle n'a jamais menti. Voilà pourquoi elle ment si bien quand elle ment pour la première fois. Soutenue par cette idée terrible que si elle ment mal, elle va déterminer une catastrophe. Laquelle exactement, elle l'ignore. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Si ce n'est que la police poursuit son mari, que son mari se cache de la police et d'elle, Françoise, et qu'il a partie liée avec cette espèce de monstre blessé dont il lui semble entendre le souffle au-dessous d'elle. « Il y a longtemps que vous êtes dans cette pièce, madame ?» demanda l'inspecteur. « Mais, monsieur, depuis au moins 2 heures. »« Vous m'effrayez !» s'écria-t-elle. « Êtes-vous sûr que des malfaiteurs... Il va falloir fouiller toute la maison. Ne me quittez pas, monsieur. » Elle s'est redressée sur sa chaise longue. Elle est subitement haletante. Son mensonge s'aggrave. Et elle dit instinctivement tout ce qu'il faut dire pour que cet homme parte et cherche ailleurs. Elle lui dit de rester près d'elle. Il est déjà parti. Elle le suit. Elle l'accompagne. Françoise est née instantanément à l'intrigue. Elle en connaît tous les détours. Une attitude trop calme devant une irruption policière, aussi inattendue, aurait été des plus maladroites. Et Françoise s'est émue tout juste ce qu'il fallait. Non seulement elle a convaincu de son ignorance l'inspecteur, mais encore cette sorte de monstre qui se cache sous sa chaise longue, et son mari derrière le rideau. Tous deux pensent qu'elle les sauve, sans qu'elle s'en doute. Cela aussi était nécessaire. L'œuvre est parfaite. Ils entendent la jeune femme questionner anxieusement l'inspecteur qui redescend dans les jardins, appelé par ses hommes. Aussitôt, deux têtes se montrent dans le boudoir. Celle de Pallas, d'abord, puis celle de Chéri Bibi, entre les glands qui pendent de la chaise longue. « 22 !» Attention, souffle Chéri Bibi, qui, dans les moments critiques, retrouve facilement l'argot du bagne. « C'est peut-être un décanillage à la manque !»« Je ne pense pas !» réplique à voix basse Pallas. « Ma femme l'a convaincu. »« Sans Madame d'Aumont, nous étions cuits !» continue Chéri Bibi, qui sait allier les formules du plus profond respect et de la plus grande correction, dès qu'il s'agit du beau sexe, au jargon le plus verdâtre. Pallas ne répond pas. Le cœur battant et les tempes glacées, il écoute. Il écoute s'éloigner cette voix, cette chère voix qui les a sauvés et qui questionne encore. Le miracle heureux, pense Pallas. Ce n'est pas qu'ils aient échappé à l'inspection. C'est que Françoise ne se soit pas soudain trouvée en face de l'horreur qu'ils apportaient tous deux quand ils avaient pénétré dans le boudoir. Il est comme assommé par l'idée que cette chose affreuse eût pu se produire. Et il faut le glissement douloureux de Chéri Bibi sur le parquet et le sourd halètement du bandit pour le rappeler à la réalité féroce de la minute présente. « Où vas-tu » demande-t-il, hébété. « Eh bien, quoi, tu ne m'invites pas à dîner, probable. Et puis, Madame d'Aumont peut rentrer. Je ne puis pas rester ici. Faut se trotter. Mais t'occupe plus de moi. Tu as assez fait, Pallas. T'as tout payé d'un coup. Et ça, mon vieux, je te le rendrai. Et avant qu'il soit longtemps. Si tu n'étais pas si loin, j'embrasserais le bout de tes ripatons. J'ai connu des poteaux. Mais toi, tu es digne de mon cœur. Et tu sais, le cœur de Chéri Bibi, c'est quelque chose dont on ne se doute pas. » Ce disant, il continuait de se traîner sur les coudes, et peu à peu, il gagnait du côté du balcon. « On ne viendra plus par là ce soir. Écoute les flics, ils sortent de la volière. » La villa. « Ils en ont assez vu par ici. Moi aussi. Tu vas me descendre sur la pelouse. Et ce vieux cachalot de Silvio aura tôt retrouvé sa piole. T'en fais pas. » Pallas ne le quitta point. Il avait retrouvé toute sa lucidité d'esprit en entendant à nouveau la voix de Françoise qui appelait les domestiques dans le jardin et leur ordonnait de fermer les portes avec soin. Lui aussi était dans la nécessité de disparaître à nouveau, de sortir de la villa pour y revenir le plus normalement possible. Tous deux purent profiter de ce que, sur l'initiative de Françoise qui avait fait rentrer tout le personnel, les jardins étaient redevenus déserts pour s'y glisser et gagner la grève. De là, ils atteignirent la cabane sans autre aventure et Pallas donna les premiers soins à Chéri Bibi. « Mon vieux, soupirait le bandit, t'as des mains de femme et tu me dorlotes comme une poupée. J'en ai l'âme en pleurs. Mais tout de même, j'ai le cuir déchiré et je connais quelqu'un qui n'a pas son pareil pour ces blessures-là. C'est le docteur Yo-Yo. » Pallas retourna à Nice et rentra à la villa avec une auto. Le soir même, le docteur Ross veillait Chéri Bibi. Quand M. Daumont se présenta à la villa Thalassa, les domestiques lui apprirent en quelques mots l'événement de la soirée. Effrayée par l'irruption de la police, Mme Daumont s'était couchée. Elle reposait maintenant. Après quelques minutes où, dans la solitude du cabinet de toilette, il avait fait disparaître les dernières traces d'un labeur de forçat, Pallas s'en fut entr'ouvrir la porte de la chambre de Françoise. Celle-ci dormait d'un sommeil si profond que le malheureux remercia le ciel et referma la porte. À la vérité, dans ce sombre acharnement du mauvais sort à le poursuivre, il y avait des éclaircies, un soudain retour heureux des événements qui le sortait de l'abîme au moment où il croyait en toucher le fond. Cette femme, qui reposait si paisiblement derrière cette porte, lui redonna un peu de calme. Il avait cru qu'il allait falloir mentir encore, inventer des choses tout de suite, expliquer son retard et montrer un visage de comédie. Déjà, par un effort suprême, le dernier d'une journée bien remplie, il s'était préparé à cela. Ce n'était pas seulement de ses effets qu'il avait fait la toilette, mais de son regard, mais de son sourire. Et voilà qu'elle dormait. Quand il se retrouva seul chez lui, il eut une détente farouche et il tomba dans un fauteuil en riant d'un rire sourd et stupide qui l'arrêta net, du reste, car il lui faisait peur, et cela touchait à la folie. Événement formidable! Pallas était tranquille jusqu'au lendemain matin. Alors il s'endormit comme une bête. Il ne rêva même pas du bagne. Chapitre 2. Descente au fond de l'abîme. Chéri Bibi, lui aussi, passa une nuit excellente grâce à de certains médicaments primaires dont Yo-Yo avait le secret. Et il fit, lui, des rêves admirables. Il rêvait qu'il avait débarrassé à jamais Pallas des trois bandits qui formaient le seul obstacle à son bonheur. Quand il se réveilla, il était encore plein de cette idée charmante et il tâcha, pendant quelques instants, à se rappeler par quel coup heureux et terrible il était parvenu à un aussi enviable résultat. La mémoire qu'il avait de son rêve lui faisait défaut sur ce point capital, et il ne s'en montra point autrement chagriné, car il ne manquait point de confiance en son imagination à l'état de veille, dès qu'il s'agissait de débarrasser la société de quelque mauvais garçon. Il venait de décider, à part lui, de conférer de cette chose importante, au plus tôt et dans le plus grand secret, avec son ami La Ficelle, et un sourire de bon augure errait déjà sur sa lèvre monstrueuse, quand deux petits coups secs frappés à la porte de lui le firent se dresser, la mine terriblement hostile, car il ne connaissait point cette manière de frapper. « Qui est là ?»«
C'est moi !» répondit une voix de femme qui le fit tressaillir. « Ouvrez-moi, monsieur Silvio !»
Chéri Bibi, du grabat où il était étendu, tira le cordon qui faisait jouer le verrou et une femme parut. C'était Madame Daumont. Avec elle entra toute la lumière de la rade. Et elle-même, dans ce taudis, dans ce trou d'ombre au fond duquel remuait l'ombre de Chéri Bibi, surgit comme une âme en visite, comme une douce flamme du paradis attirée dans l'antre d'une sorcière par quelque invocation irrésistible. Au fait, sur le foyer en cendres, finissaient de cuire dans un chaudron des herbes et ingrédients diaboliques apportés la nuit même par Yo-Yo, et qui n'étaient peut-être point seulement destinés à des cataplasmes. Pour que Macbeth s'en vint vers les sorcières de minuit, il avait fallu peut-être un miroton moins compliqué que celui qui mijotait dans le pot du piaille roucouyenne. Yo-Yo connaissait le secret de toutes les mixtures, et il pouvait beaucoup demander à leur vertu. Chéri Bibi put penser que c'était à la toute-puissance du sorcier qu'il devait l'apparition de cette fée sur le seuil de sa nuit. « Entrez, gentille dame !» exprima le plus doucement qu'il put le monstre frissonnant. Françoise avait bravement refermé la porte. Chéri Bibi soupira. Il ne la voyait plus. Tout au moins avait disparu cette forme de lumière qu'il avait soulevée de son grabat dans un émoi de tout son être. Chéri Bibi aimait la beauté. Il l'avait jadis fréquentée pendant des heures heureuses et sublimes, et c'était un homme qui n'avait pas hésité dans son temps à accomplir des exploits mythologiques, nous voulons dire dignes de la mythologie, pour un sourire de femme. Or, si peu qu'il la vit, dès qu'elle eut repoussé la porte, il voyait bien que Madame Daumont ne souriait pas. Certes, non. Que venait-elle faire chez lui? Elle ne lui avait jamais adressé la parole. Il l'avait quelquefois promenée en barque, mais ça avait toujours été comme s'il n'avait pas existé pour elle. Elle passait tout le temps de la promenade à mêler ses yeux aux yeux de Pallas. Les yeux de Madame Daumont n'avaient jamais eu un rayon pour le pauvre pêcheur Silvio. C'était un miracle qu'elle sût même qu'il existât, qu'il habitât ces quatre planches au bord de l'eau. « Monsieur, » fit la voix grave de Françoise, une voix qui ne tremblait pas, « je suis Madame Didier Daumont. »«
Je vous ai reconnue, madame, » fit Chéri Bibi en hochant la tête et pour dire quelque chose.
« J'ai le vertige, » pensait-il. « L'attente fait que tout tourne autour de moi. » Il n'attendit pas longtemps. « Moi aussi, je vous ai reconnu, monsieur. J'ai reconnu tout à coup le pêcheur Silvio quand mon mari vous a pressé dans ses bras. » Il y eut au fond de l'antre un grognement rauque qui était aussi un gémissement. Et puis, plus rien. Et ce fut encore la voix grave de Françoise qui reprit. « Je vous ai aperçu aussi, monsieur, la nuit où vous avez sauté par la fenêtre du bureau. »«
Et vous n'avez rien dit ?»«
Je me suis évanouie. » »«
Évidemment. »
Cette fois, le silence fut long. On entendait seulement la vaste poitrine battante de Chéri Bibi. « Je comprends. » finit-il par dire, dans un souffle et dans un sourire, dans un effroyable sourire qu'elle ne vit pas, car elle se serait assurément enfuie, effrayée devant une créature de Dieu qui pouvait avoir des sourires pareils. « Je comprends le souci qui vous amène. » Et, dans l'ombre, Chéri Bibi se prit la gorge comme s'il voulait y étrangler le ricanement sinistre qui déjà enflait ses muscles. Ainsi, cette femme s'était évanouie d'horreur parce qu'elle avait vu son mari l'embrasser comme un frère.
Évidemment, évidemment.
Elle avait vu la peste en personne sortir de la nuit et presser Pallas sur son sein que la vie n'eût pas été arrêtée en elle par une plus grande épouvante. Ça, c'était le lot de Chéri Bibi, de n'avoir qu'à paraître pour faire hurler les petits-enfants et se pâmer les femmes. Je comprends le souci qui vous amène. On n'embrasse pas ça. Qui suis-je, moi, qui l'a embrassé? Eh bien, madame, je suis. Il devina qu'elle se rapprochait de lui. Il sentit la chaleur de sa main qui n'osait pas toucher sa bouche. Taisez-vous. Je ne suis pas venue ici pour savoir qui vous êtes. Je ne le savais pas quand vous étiez cachés tous deux, mon mari et vous, dans mon appartement.
Fatalitas, vous nous aviez vus, madame,
haleta Chéri Bibi. Vous saviez que j'étais sous votre chaise longue?
Oui, monsieur, et je ne me suis pas évanouie.
Oh, vous saviez que j'étais là, moi? Moi, l'horreur de moi?
Elle ne dit rien. Elle attendait qu'il parlât maintenant. Mais Chéri Bibi ne pouvait pas parler. Sur un fond de demi-gémissement, de demi-rugissement, éclataient de temps à autre des monosyllabes, des moitiés de mots, des commencements de phrases aussitôt évanouis. Tout cela traduisait son enthousiasme pour une petite femme qui n'avait eu qu'à poser tranquillement sa fragilité sur un divan, entre un bandit qui se cache et un policier qui cherche, pour tromper et retarder le destin. Cependant, un peu calmée, quoique tremblant toujours d'un reconnaissant émoi, Chéri Bibi finit par prononcer. « Elle est brave. Timidité. Tu es une enfant qui n'a point de place ici. On peut vous parler carrément, madame. Vous nous avez sauvés. Votre mari sait-il cela ?
Non, puisque je suis ici.
Évidemment. Et c'est à moi que vous venez demander de trahir le secret. » Elle se leva. Par la lucarne, un ray de lumière venait de pénétrer. La figure de Françoise entra dans cette lumière et la renvoya à Chéri Bibi, sur son grabat, en effluves adorables.
« Je ne viens point, dit-elle, pour connaître votre secret à tous les deux. Je sais que vous courez le même danger. Je viens vous demander, à vous, le moyen d'y parer et de sauver mon mari, sans que mon mari s'en doute. »
Elle n'avait pas achevé cette phrase que toute la masse de Chéri Bibi basculait, roulait aux pieds de cette femme et s'y maintenait, tandis que ses mains agrippaient le bas de la jupe et que le monstre en embrassait les plis passionnément. Françoise voulait le relever.
« Laissez, laissez, supplia-t-il. Laissez-moi ici, c'est si bon. Je ne me mets pas souvent à genoux, je vous prie de le croire. Cela ne m'est arrivé qu'une fois dans la vie, et c'était au pied d'une sainte comme vous. Tout ce que je peux faire de bon, tout ce que je peux tenter de bien, ce sont des choses qui m'arrivent, c'est en souvenir d'elle. Après tout, c'est une vieille histoire qui n'a rien à faire ici, mais c'était un ange comme vous. Alors laissez-moi pleurer un peu à vos pieds. Ça soulage. Depuis tant d'années que je n'ai pas pleuré aux pieds d'une femme. »
Françoise, qui pleurait elle aussi, attendit qu'il ne pleurât plus. Ce ne fut pas long. Chéri Bibi, soudain furieux de son apitoiement, dévora, si l'on peut dire, la moitié de son chagrin en silence.
« Vous avez beaucoup souffert ?» demanda Françoise, qui ne voulait pas se montrer égoïste et qui cependant ne pensait qu'à une autre souffrance.
« Oui, oui, pas mal, merci.
« Et mon mari aussi a beaucoup souffert ? » fit-elle en hésitant.
« Oui, oui, un peu. » Et tout à coup, Chéri Bibi, revenu de lui-même, mécontent de sa faiblesse envers lui-même, voulut bien se rappeler que cette femme n'était pas venue là pour lui.
« Trop !» s'écria-t-il. « Il a trop souffert. Car lui, madame, il est innocent, comme un enfant. C'est une âme toute blanche, comme la vôtre, madame, digne de la vôtre. Vous saurez tout. C'est nécessaire. Si vous ne saviez pas tout, vous pourriez vous imaginer... »
Françoise tremblait d'angoisse. Chéri Bibi s'en aperçut. Il s'interrompit.
« Non, vous ne pourriez imaginer cela. Alors il vaudrait peut-être mieux se taire. »
Et il attendit.
« Je ne crains rien pour lui, » fit-elle de sa douce voix grave, un peu tremblante. Et elle se répéta tout haut, comme pour se donner du courage, une phrase qu'elle ne cessait de dire tout bas depuis 24 heures.
« J'ai foi en lui, j'ai foi en lui !» Puis elle ajouta avec une ferveur nouvelle « Dites-moi tout ce qu'il faut !»
Chéri Bibi s'était redressé, avait regrimpé sur son grabat avec des grognements. Il réfléchissait, et voilà qu'il cessa de réfléchir, qu'il fit entendre une phrase qui grondait entre ses dents depuis quelques minutes, une phrase qu'il avait grand-peine à retenir prisonnière. Il ne la retint plus parce qu'il fallait en finir, et qu'entre lui et cette femme, il ne pouvait plus y avoir de demi-confidence.
« Lui et moi, nous sommes deux forçats en rupture de ban. »
La figure de Françoise était toujours dans la lumière, de telle sorte que Chéri Bibi put assister du fond de sa nuit à la transformation subite de ce visage qui sembla quitter la vie. Les paupières battirent et retombèrent sur le regard, lourdes comme du marbre, et toute la figure elle-même ne fut plus qu'une image de pierre caressée d'un rayon idéal. Cependant, cette image, en dépit de l'apparence, était vivante, puisque les lèvres remuèrent pour laisser passer un mot dans un soupir.
Le malheureux.
Ainsi, dans cette affreuse conjoncture où elle apprenait toute l'immensité de son propre désastre, elle ne pensait qu'à la calamité de l'autre, de celui à qui elle avait donné son cœur, son âme, sa chair, et dont elle ne pouvait pas douter, puisqu'elle lui avait donné tout cela. Sous le coup qui venait de lui être porté, elle ne pensait pas qu'elle avait épousé un forçat. Elle pensait au forçat qu'elle avait épousé et qui était innocent. Cela représentait pour lui une somme déjà si considérable de misère et de désespoir qu'elle ne pouvait avoir même l'idée de commencer à prendre sur elle-même la mesure de son malheur personnel. Cela était d'une grandeur telle que Chéri Bibi en était comme foudroyé. Un mot tombé de cette bouche adorable l'avait frappé jusqu'à l'anéantissement. Chéri Bibi prétendait connaître l'amour, et il y avait dans sa vie passée des heures où ce sentiment lui avait inspiré les plus généreux crimes de la terre. Tout de même, un amour aussi parfait, aussi absolu que celui qui remplissait le cœur de cette femme, peut-être ne l'avait-il pas soupçonné. Un mot le tira de son accablement extatique.
« Parlez !»
Alors il parla. Et ce pitoyable bandit se rappela que jadis, entre deux stations à Cayenne, il avait su tenir à une femme le plus noble et le plus tendre langage du monde. L'élégance et la beauté, surgies à ses côtés, chassaient instantanément l'argot. Une belle douleur qui passait anoblissait la sienne. Il n'y avait pas 5 minutes qu'il parlait que Françoise, dans une grande détente heureuse de tout son être, pleurait. Il parlait avec une émotion si profonde de l'innocence de son ami, que la jeune femme posa sa main, dans un geste inconscient de reconnaissance, sur la main de Chéri Bibi. Celui-ci se recula aussitôt avec un sourd rugissement au fond de son antre.
« Pas les mains ! On ne me touche pas les mains ! Un ange comme vous ne touche pas les mains de Chéri Bibi. »
À ce nom, célèbre dans les fastes du crime universel et dont on avait terrifié sa première enfance, comme autrefois les gouvernantes en usaient avec le loup-garou, Françoise eut un « Oh !» d'épouvante.
et au recul de pudeur de chérie Bibi, elle répondit par un recul d'horreur. On ne la voyait plus, ils ne se voyaient plus, ils étaient chacun dans leur coin, chacun dans leur bout d'ombre. « N'ayez pas peur, madame !» gronda la voix redevenue férocement ironique de l'affreux bandit. « Je ne bougerai plus, je vous le jure. Prenez le temps seulement de vous remettre pour mieux m'écouter. Je ne dirai que des choses utiles, vous pouvez en être assuré. Je ne veux pas que vous reposiez auprès de Pallas avec une âme inquiète. « Pallas ? » interrogea-t-elle dans un souffle. « C'est ainsi que nous l'appelions au bagne, madame. Un joli nom, n'est-ce pas ? C'est moi qui le lui ai choisi. Mais son vrai nom, je vais vous le dire. Votre mari s'appelle Raoul de Saint-Dalmas. Ce nom ne vous dit rien. Vous étiez trop jeune lors de l'affaire. » Il s'arrêta. Il l'entendit qui claquait des dents. Elle, si brave tout à l'heure, maintenant elle avait peur. Elle avait peur de lui. Le monde entier avait peur, depuis si longtemps, de chérie Bibi. Et il eut pitié de cette pauvre créature qui avait la terreur de son nom et qui grelottait parce qu'il avait haussé un peu la voix et que, depuis un instant, il s'exprimait sur un ton fâché. Dès lors, il lui parla à voix basse. Oh, à voix basse, il pouvait avoir une voix si douce, certaines intonations sympathiques du plus heureux effet. Et il lui conta toute la triste aventure du pauvre Saint-Dalmas, comme s'il eût récité l'une de ses complaintes des bords de la route que les marchands d'images d'autrefois vendaient pour 2 sous aux petits-enfants après les leur avoir chantés. C'était infiniment pitoyable. Et il ne pouvait y avoir qu'un brave homme pour trouver une façon aussi joliment touchante de conter un si injuste malheur. Alors elle cessa de claquer des dents. Elle écoutait. Elle écoutait. Maintenant, chérie Bibi confiait à Françoise qu'il s'était échappé lui-même du bagne pour aider Pallas à prouver son innocence, et que c'était dans la recherche de cette preuve qu'ils avaient failli tous deux être pincés par la police et qu'il leur était arrivé la méchante aventure de la nuit. Ce disant, chérie Bibi laissait ignorer à Françoise l'existence des misérables qui poursuivaient son mari. Ainsi, la rassurait-il le mieux qu'il pouvait, lui affirmant que Raoul de Saint-Dalmas passait pour mort et n'avait plus rien à redouter de l'injustice des hommes. Enfin, il l'enseignait sur la conduite à tenir. Elle devait, avant toute chose, cacher à son mari qu'elle savait la vérité. « Mais je crois à son innocence !» protesta-t-elle. « Gardez le silence, vous dis-je. Tant qu'il ne pourra pas apporter à la face du monde la preuve de cette innocence-là, il ne pourra supporter l'idée qu'au fond de vous-même vous êtes en droit d'en douter. » La pensée qu'il y aurait peut-être des moments où vous y croiriez moins à son innocence lui ferait haïr la vie. Il m'a dit qu'il se tuerait si vous appreniez jamais qu'il a passé 10 ans au bagne et qu'il a été assez lâche pour vous épouser. Je n'insiste pas, conclut chérie Bibi. Sans doute, pour graver plus fortement dans l'esprit de Françoise le souvenir de ses dernières phrases, lui dictant la nécessité du silence, le bandit avait repris sa grosse voix, qui paraissait toujours si grondante de menaces. Tant est que Françoise, dans le moment qu'elle se sentait un peu moins de répugnance pour un si célèbre brigand, lequel avait montré tant de dévouement pour la pauvre victime qu'elle adorait, se reprit à trembler comme une feuille. Le rayon de soleil qui passait par la lucarne s'était glissé peu à peu jusqu'au grabat, et éclairait maintenant les mains. Pas les mains, pas les mains. Oh, ces 2 énormes pattes qui s'étaient refermées sur tant de crimes dont la terre était encore toute retentissante. Elle lui faisait peur, elle lui faisait peur. Et tout à coup, ce fut plus fort qu'elle. Comme ses mains avaient remué un peu vers elle, elle se sauva. Elle fut près de la porte d'un bond, l'entr'ouvrit d'une main tâtonnante, bredouilla quelques mots honteux de remerciement, puis, comme elle sentait qu'elle allait étouffer, elle se jeta dehors et se mit à courir, courir comme une folle, poursuivie par un mot qui éclatait encore à ses oreilles et qui avait salué son départ éperdu. Fatalitas. Chapitre 3. Deux âmes qui se cherchent. Quand Françoise rentra à la villa Thalassa, M. Daumont la cherchait. Il ne comprenait point qu'elle fût sortie si tôt sans qu'il l'eût vue. Les domestiques ne pouvaient donner aucun renseignement utile. Françoise entendit son mari dans le jardin qui questionnait un jardinier. Le son de cette voix émue lui fut une douce musique après les derniers grognements de l'autre. Elle sentit battre son cœur ineffablement et elle comprit qu'elle ne l'avait jamais tant aimé. Mais elle tremblait d'être surprise dans son émoi. Elle eût voulu avoir des heures devant elle pour se recueillir. Elle se demandait avec angoisse si elle n'allait point se trahir tout de suite, si son visage n'allait point apprendre à Didier qu'elle savait tout. Et les dernières paroles de chéri Bibi. Il se tuerait. N'étaient point faites pour la calmer, bien qu'elle lui commandasse le sang-froid. Elle s'était arrêtée derrière le petit temple de l'amour qui dressait, à l'extrémité des terrasses, sa coupole de marbre parmi l'enchevêtrement d'une flore embaumée. Elle avait mis la main sur son sein, et quoi qu'elle fît pour dompter son cœur en désordre, elle se demandait si elle n'allait pas suffoquer, s'abattre là stupidement, quand Didier, inquiet, surgit devant elle. « Oh, mon Dieu, qu'y a-t-il ? » Et il courut vers elle. « Rien, rien, je suis montée trop vite. Je voulais te faire une surprise. Je suis un peu essoufflée. Ce n'est rien, je t'assure, mon chéri. » « Là, là, calme-toi, mon cœur. Maintenant, le plus gros est fait. » Elle reprenait son équilibre mental et la libre disposition de son corps. Elle l'avait vu, le forçat. Elle lui avait parlé naturellement. Elle avait trouvé tout de suite le mensonge nécessaire. Elle sentait qu'elle saurait toujours lui mentir sans hésitation, avec une habileté que lui dicterait son incommensurable amour. Didier l'embrassait et elle riait de bonheur, un peu plus fort, un peu plus nerveusement peut-être qu'il n'eût fallu, mais elle était montée si vite. Elle avait couru. « Ce matin, je n'ai pas voulu te déranger. Tu dormais si bien. » « C'est comme moi hier, quand je suis rentrée. Je n'ai pas voulu t'éveiller. »« Crois-tu ? Quelle histoire ! » fit-elle tout à coup. « Tu sais qu'ils m'ont fait peur, ces gens de la police. On t'a raconté ? » ?»«
Oui, c'est assez bête, ce qu'ils ont fait là.
Tu ne vas plus te croire en sûreté ici. » « Si tu veux, nous allons déménager. »« Oh, mon chéri, me prends-tu pour une sotte ?» Et elle lui parla tout de suite d'autre chose de très important, de la robe que Violette, aînée, devait lui livrer le jour même. « Encore une surprise que je te réserve pour ta fête de charité de l'hôpital auxiliaire de Simiez. Tu verras comme je serai belle, c'est une idée à moi. Oh !» Très simple, tu sais, mais d'un chic. La coquette. Oui, pour toi seule. Il était rassuré, quant à elle, c'était visible. Peut-être avait-il redouté que les événements de la nuit précédente eussent laissé chez Françoise un souvenir inquiétant. La façon hâtive dont il l'avait recherchée le matin même, le trouble avec lequel il l'avait abordée, tout le faisait supposer. Mais maintenant, il respirait librement. L'effroyable aventure avait passé près de sa femme, sans qu'elle en eût été effleurée. « Où es-tu allée te promener ce matin ?»«
Mais tout près d'ici, mon chéri, jusqu'à notre rocher, tu sais, celui où l'on est si bien pour s'embrasser. Je t'attendais, je me disais, il va se douter que je suis là. Et tu n'es pas venu, méchant. »
« J'y allais, » fit Pallas. Et c'était la vérité. Cette matinée se passa,
pour Françoise, sans que Pallas s'en doutât un seul instant, dans une occupation ardente de son esprit autour des gestes du forçat. Observation muette, alternative de terreur et de confiance ardente. Un forçat ? Un forçat ? Oh, ces deux syllabes dans la sonorité de son cœur. Mouvement de pitié et d'amour. Un moment il fut devant elle et il paraissait l'avoir oubliée, tant son esprit préoccupé envisageait dans le secret de sa conscience de redoutables et pressantes hypothèses. Et il marchait devant elle, les mains dans les poches, les épaules lasses et le menton bas. Alors, ce fut une révélation atroce. Elle n'avait connu jusqu'alors que le héros. Elle venait d'apercevoir le bagnard. Il ne devait pas être autrement sur le roc brûlant où le destin l'avait jeté 10 ans de l'autre côté des océans. 10 ans de bagne ! Cet homme dont elle avait pénétré la belle âme, dont le cœur généreux, comme celui d'un enfant, tenait tout entier dans ses petites mains d'épouse. Cet homme avait vécu 10 ans au bagne. Ce fut si soudain, cette vision, qu'elle ne put retenir une sourde exclamation. Didier se retourna. « Quoi encore ? Quoi encore ? Rien, rien. Je t'aime, je t'aime. Ah, comme je t'aime !» Elle lui avait pris la tête entre ses doigts de lumière. Elle l'avait rapprochée de ses lèvres tremblantes d'amour. Et ses baisers allaient chercher les rides les plus profondes, celles qui se cachaient aux tempes, dans l'ombre propice du cheveu rude, celles qui avaient conservé les souvenirs les plus forts de la douleur. Elle les lavait de ses larmes tièdes qu'elle ne pouvait plus retenir et qui coulaient doucement sur ce visage adoré. « Françoise, Françoise, qu'as-tu ? » balbutiait-il encore. « Rien, rien, je t'aime et je pleure. Laisse-moi pleurer. Je pleure de bonheur, mon chéri, mon chéri. » Il sortit de ses mains ébloui et terrifié. Un amour pareil au fond de son abîme. Il y avait de quoi crier de joie et d'horreur. Il se laissa aller dans ses bras, ne voulant plus penser à rien, décidé à s'abandonner à son destin qui le frapperait par derrière quand il lui plairait. Mais elle, mais elle ! Chapitre 4. Les voiles se déchirent. Quelques heures plus tard, à cause d'elle, il retournait déjà vers le seul être qui avait osé se mettre entre le destin et lui. Les autres n'allaient pas en rester là. Chéri Bibi le rassura. Certainement, après l'échec de leur première tentative de chantage et les dangers personnels qu'ils avaient courus, Arigonde et sa clique le laisseraient quelque temps en paix, ce qui donnerait le temps à Chéri Bibi de négocier cette affaire dont il se chargerait désormais. On fera en sorte que tu n'en entendes plus parler. Compris, Pallas, ne me parle plus de ces voyous-là, ils n'en valent pas la peine. N'y pense plus. Ces paroles, prononcées avec cette assurance particulière à Chéri Bibi, qui ne permettait aucune objection, avaient le don de rassurer un peu Pallas. Et il savait qu'il pouvait compter sur son vieux compagnon de GN. Chéri Bibi parlait de négocier l'affaire. Pallas avait pu juger de quelles ressources insoupçonnées Chéri Bibi disposait. L'homme qui lui avait livré, quelques années auparavant, le trésor de Yo-Yo, était bien capable d'être encore assez riche pour contenter les appétits de chantage les plus ouverts. Dans le moment qu'il se faisait ces réflexions consolantes, on frappa à la porte de la cabane. Pallas en montra de l'émoi. « N'aie crainte, c'est le bon docteur qui vient soigner le pauvre pêcheur Silvio. Entrez, docteur !» Le docteur Ross entra et retira ses lunettes. Monsieur Didier Daumont ne l'avait encore jamais vu de si près. Il ne put retenir une exclamation. Il venait de reconnaître Yo-Yo. Ainsi, Yo-Yo était venu en France avec Chéri Bibi. Pallas voulut demander des explications,
mais Chéri Bibi lui répliqua que le docteur n'avait pas une minute à perdre et il donna carrément congé à M. Daumont. Celui-ci s'en alla, persuadé plus que jamais que Chéri Bibi et Yo-Yo complotaient de le sauver une fois de plus avec l'or de la forêt vierge. Légèrement étourdi par une aussi heureuse perspective, Pallas rentrait à la villa Thalassa quand son attention fut tout de suite attirée par une silhouette féminine qui l'intrigua étrangement. Cette démarche ne lui était point inconnue. Cependant, au lieu de hâter son pas, il n'avança plus qu'avec une certaine hésitation. C'était ainsi maintenant. Quand le moindre événement imprévu survenait, une instinctive inquiétude suspendait instantanément le cours normal de son geste ou de sa vie intérieure. Malmené à nouveau si cruellement par un mauvais destin qui pendant plus de 3 ans semblait s'être détourné de lui, Pallas courbait déjà les épaules sous de nouveaux coups. Il laissa pénétrer cette femme dans le vestibule de la villa et attendit qu'elle fût introduite pour questionner le domestique. Ce qu'il apprit n'était point de nature à calmer sa curiosité. La visiteuse n'avait point donné son nom. Elle avait seulement prié que l'on annonçât à Madame Daumont une amie. Dans le moment, Françoise était enfermée dans son boudoir avec des livres qu'elle avait rapportés de Nice, une collection des causes célèbres, où l'affaire de Saint-Dalmas était retracée dans ses plus grands détails. La malheureuse dévorait littéralement le compte-rendu de ses audiences, où tout semblait accabler l'accusé, mais où retentissait aussi avec une persistance et des accents dont elle était toute frémissante sa farouche protestation d'innocence. Quand on frappa à la porte, Françoise dissimula rapidement ses livres. Elle fut tout étonnée de l'étrange façon dont se présentait la visiteuse inconnue. Elle posa quelques questions au domestique et lui ordonna de la faire entrer dans le grand salon du rez-de-chaussée. Ayant mis les causes célèbres sous clé, elle descendit. Elle n'avait pas plus tôt pénétré dans le grand salon qu'un double cri de joie retentissait aussitôt, et les deux femmes étaient dans les bras l'une de l'autre. « Madame Martens, ma petite Françoise !» C'était une très ancienne et très bonne amie de la famille. Madame Martens avait connu Françoise, fillette, une dizaine d'années avant les événements présents. Depuis la guerre, elle n'avait pas eu l'occasion de se revoir, mais elle s'était écrit souvent. Madame Martens avait eu une grande peine de ne pouvoir assister au mariage de Mademoiselle de La Boulay. Elle était elle-même mariée depuis 20 ans à un magistrat célèbre par ses travaux sur le droit criminel, figure austère, nature glacée, qui n'avait pas su la rendre heureuse. Enfin, le grand chagrin de sa vie était de n'avoir pas d'enfant. Quand elle avait connu Françoise, elle l'avait aimée comme sa fille. À l'époque où nous nous trouvons, Madame Martens allait sur ses 38 ans. Elle avait conservé une taille élégante, elle était plutôt grande. Cette femme avait dû être fort jolie. Peut-être l'était-elle encore, en dépit des misères intimes qui la minaient. Un voile épais cachait ses traits. Françoise voulait qu'elle se mît tout de suite à son aise, qu'elle ôtât sa voilette. « Tu vas encore me trouver changée. Je suis une vieille femme qui n'a jamais été heureuse. Et toi, ma petite Françoise, es-tu heureuse ?»« J'adore mon mari. Tu verras comme il est beau et comme il est bon. »« Je brûle de le connaître. Tu vas me le présenter. » Dans le moment même, la porte s'ouvrit. C'était Pallas. Il avait entendu le double cri de joie et il n'avait pu résister plus longtemps au désir de savoir qui était cette femme élégante qui était venue surprendre sa femme et dont la démarche ne lui paraissait pas étrangère. « Viens que je te présente à ma meilleure amie, Madame Juliette Martens. » À ce nom, Pallas resta comme cloué sur place. Et en face de lui, il y eut une sourde exclamation sous la voilette. « Juliette Martens ? Juliette Martens ?» Tout tourne autour de Pallas, et la visiteuse de son côté appuie sa main tremblante sur un meuble. Heureusement que le trouble qui s'était emparé des deux personnages passa inaperçu de Françoise. Dans le même instant, la femme de chambre était venue avertir sa maîtresse que Mademoiselle Violette, aînée, désirait lui dire un mot très pressé. Déjà, Pallas et Madame Martin s'avaient reconquis le sang-froid dont ils avaient grand besoin. « Je vais voir ce qu'elle me veut !» jetait à la hâte Françoise. « Et je reviens tout de suite. Mais avez-vous fini de vous faire des cérémonies ?»« Ma meilleure amie, Didier ! Ma meilleure amie !» Elle s'échappa. La porte refermée, Madame Martin se laissa tomber dans un fauteuil en murmurant « Vous ! Oh, vous ! C'est vous ! » Pallas était maintenant d'une pâleur terrible. « Le bagne m'a donc si peu changé » prononça-t-il d'une voix si basse que Madame Martin devina plutôt ses paroles qu'elle ne les entendit. « Vous m'avez reconnu du premier coup. « Et vous, me reconnaîtriez-vous » fit-elle en soulevant sa voilette. « Reconnaissez-vous la trace de ma douleur et de mes remords ?» Et il revit ce visage qui avait été si beau, ses traits, maintenant flétris, qui avaient illuminé son ardente jeunesse. Oui, cette femme avait été son premier amour. Cette femme avait commis pour lui l'unique faute de sa vie, une faute terrible dont elle portait encore le poids. Ô souvenir, ô passé, ô folie du printemps de la vie! Il s'était glissé derrière elle, sa voix tremblait. « Juliette, Juliette, m'avez-vous pardonné ?»« Juliette, Juliette, pourquoi vous êtes-vous retirée si rapidement et si cruellement de moi ? J'étais si jeune. Si vous m'aviez permis de continuer de vous aimer, Juliette, bien des malheurs auraient peut-être été évités. Je ne serais point devenue la victime de ce démon, de cette Nina Noah qui causa ma perte. Et ma mère vivrait encore. Juliette, Juliette, quand j'ai été condamnée, m'avez-vous cru coupable ? Non, jamais ! » À ces mots prononcés avec une force inattendue par Madame Martins, Pallas mit un genou à terre et il embrassa le bas de sa robe. Mais elle le releva tout de suite dans l'effroi que l'on entra. « Et je vous retrouve, mariée à Mademoiselle de la Boulay. » Silence ! Un jour viendra où je vous raconterai tout. « Raoul, je ne veux pas vous juger, » soupira-t-elle. « Ma faute à moi a été si grande. Raoul, qu'est devenu notre enfant ? Ah, c'est cela, le remords de toute ma vie. » Et comme elle ne pouvait retenir ses pleurs, elle baissa aussitôt sa voilette. « Ne pleurez pas, ne pleurez pas !» Ils avaient cru entendre du bruit derrière la porte, mais celle-ci restait close. Ils eurent tous deux un soupir où tenait tout le passé. Le passé, il y avait presque 20 ans de cela. 20 ans que pendant une absence prolongée de M. Martins, qui faisait partie d'une mission de droit international voyageant à travers le monde, elle s'était abandonnée à la fougue amoureuse du jeune Raoul dont elle avait fait connaissance au bain de mer. Elle s'était reprise tout de suite, épouvantée de la faute commise, et châtiée bientôt par l'événement le plus redoutable. Un enfant. Le prodigieux espoir de sa vie, qui allait devenir son tourment, sa gêne de chaque jour. Un enfant qu'il allait falloir cacher, et qu'elle ne pourrait peut-être jamais voir. Et il avait fallu mentir honteusement, odieusement, partir pour la Suisse, accoucher mystérieusement. Et, une nuit, une porte s'était entrouverte et un enfant avait été déposé entre les bras de Raoul. Car les choses se passent dans la vie, hélas, comme dans les romans. Ce sont les mêmes gestes qui paraissent préparés, convenus et qui ne sont que fatales, des rencontres d'événements jugés exceptionnels et qui ne cessent cependant de se répéter, suivant une logique implacable qui réunit dans un même lieu, à une heure utile, des gens qui ont toutes les raisons possibles pour ne pas se rencontrer. « Comme le monde est petit, s'écrit-on. Si petit qu'il soit, il est encore plus grand que l'imagination des hommes. Et pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire les faits divers dans la Gazette des tribunaux. La condamnation d'un innocent devait réduire l'enfant de Juliette et de Raoul à un sort précaire. La femme à qui on l'avait confié ne voulut point garder chez elle la fille d'un forçat, et elle s'en était débarrassée entre les mains d'une étrangère qui n'avait fait que traverser la Suisse et qui n'y était jamais revenue. Ah, que nous avons été coupables, Raoul! C'est peut-être pour cela que Dieu vous a si cruellement châtié. Mais à moi, qu'est-ce qu'il me réserve? Françoise s'était trouvée en face de Violette, aînée, et de Gisèle. Vous voulez me dire un mot très pressé? Mon Dieu, que se passe-t-il de si grave? Quelque chose de très, très grave, répondit en souriant la directrice de la fameuse maison de couture. Je ne pourrai pas vous livrer votre robe avant demain soir. Comment? Ce n'est que cela. Nous passions par Saint-Jean. Gisèle a voulu m'accompagner pour que vous ne me grondiez pas trop. Elle a désiré aussi vous remercier de toutes vos bontés pour elle et pour sa maman. Comment va la maman? Un peu mieux, madame. Grâce à vous, elle possède maintenant le meilleur remède, le soleil. Alors vous êtes installée dans votre nouvel appartement du quai du Midi? Oh, nous n'avons eu qu'à y entrer, tout était prêt pour nous recevoir. Comment vous dire notre reconnaissance? Et ces fleurs, toutes ces fleurs et tout ce soleil? Des fleurs? Interrompit Françoise étonnée. Mais je n'ai pas envoyé de fleurs. On a dit que c'était de votre part. C'est un tour de mon mari. Oh, madame, il est si bon. Remerciez-le pour nous. Attendez. Françoise entra dans le salon où elle avait laissé Didier et madame Martins. Dis-moi donc un peu, mon chéri, c'est toi qui envoies ainsi des fleurs aux jeunes filles sans me prévenir? Oh, ne fais pas l'étonner. Ta petite protégée, Gisèle, m'a tout dit. C'est vrai? Elle est là? Peut-elle te remercier? Mais fais-la donc entrer. Quand Françoise était apparue dans le salon, Pallas disait à madame Martins, qui lui faisait part de toutes les vaines et inutiles démarches qu'elle avait fait faire pour retrouver les traces de son enfant. « Moi, je l'ai cherché 3 ans. »« Et vous ne la cherchez plus ?» avait imploré madame Martins. « Non, Juliette, je ne la cherche plus. »« Vous avez appris qu'elle était morte ?» Non, non, elle n'est pas morte. Raoul, Raoul, prenez garde à ce que vous dites. Vous savez ce qu'est devenu notre enfant. » Françoise était alors entrée. Quand elle se fut retirée pour aller chercher Gisèle, Pallas dit à madame Martins, « Vous me demandiez ce qu'était devenu notre enfant. Eh bien, regardez. » Gisèle entrait, suivie de Françoise et de Violette aînée. C'était quelque chose de très fragile et de très beau que cette jeune fille qui venait à eux, très intimidée. Jamais peut-être elle n'avait été aussi éthérée, aussi lumineuse, avec ses cheveux blonds fous qui s'échappaient de dessous sa petite toque de loutre, son teint à peine rosé, sa chair diaphane, ses grands yeux à la fois éclatants et doux. Elle ne disait rien, elle était oppressée. Elle regardait M. Daumont comme dans les livres de messe, les anges en prière regardent le bon Dieu. Pallas fit un pas vers elle et lui tendit la main. Elle embrassa cette main. « Voulez-vous bien finir, mon enfant ?» fit Pallas, surpris, et paternellement il la baisa au front. Françoise l'embrassa à son tour. « C'est notre petite protégée, chère amie. Croyez-vous qu'elle est jolie ?» « Il faut que vous l'embrassiez aussi !» déclara Françoise en se tournant vers madame Martins, qui se trouvait alors tout près de Gisèle et qui contenait à grand-peine son émotion. Elle n'eut qu'à se pencher pour poser ses lèvres tremblantes sur cette tête chérie. « Mais vous pleurez, madame !» fit Gisèle étonnée. Et elle leva ses beaux yeux candides vers cette figure énigmatique que dissimulait un voile épais. Vers cette femme inconnue qui lui marquait soudain un intérêt si inattendu. Cependant, Violette aînée hâtait le départ.
Françoise, qui continuait de vivre son drame intérieur en dépit de toutes les contingences et qui était trop préoccupée de son propre émoi pour s'étonner de celui des autres, accompagna Gisèle et Violette dans les jardins. Madame Martin s'était précipitée à la fenêtre. Sous un rideau relevé, elle fixait, sans que son regard pût s'en détacher, cette belle enfant dont elle avait rêvé pendant tant d'années qu'elle ne les comptait plus.
« Ma fille, notre enfant, notre enfant !»
Pallas, à côté d'elle, avait appuyé son front en feu à la vitre. « La pauvre petite a bien souffert, » dit-il, « mais tout ce que je puis faire maintenant pour qu'elle soit heureuse... »«
Et moi, moi, que puis-je faire ? Mais enfin, je la vois, je la verrai souvent, sans qu'elle s'en doute. Mon enfant !»
Gisèle disparaissait alors avec Françoise à un détour de l'allée. Madame Martin, derrière la fenêtre, envoya un baiser passionné dans la direction de la jeune fille.
« Gisèle, ma Gisèle! Ah, je veux la revoir tous les jours !»«
Vous restez à Nice ?» interrogea Pallas.
« Oui, pour le moment. Mon mari vient d'être nommé avocat général dans la région. Son avancement a été terriblement lent. » Il n'a pas su se faire d'amis. Toujours le même caractère entier et tyrannique. Il est très malheureux. Nous sommes très malheureux. Ah, quand je pense, mon ami, que le bonheur est là, dans cette maison. Quand je pense au détour que ce bonheur a dû faire pour y arriver, je suis épouvantée. Ah, quelle chose funeste, belle et tragique que la vie. Que de fois j'ai pensé à vous, Raoul, pour vous plaindre, pour gémir sur le sort terrible qui vous avait frappé. Et vous voilà ici. Mais j'ai peur pour vous, j'ai peur pour vous.
Et moi, j'ai peur pour Françoise, soupira Pallas.
Oh oui, je vous comprends, aimez-la.
Je me reproche tous les jours, comme un crime, de l'avoir épousée. Je suis infâme d'avoir fait cela. Pour avoir fait cela, je mérite tous les supplices. Mais elle, qu'elle soit épargnée, mon Dieu !»«
Qu'elle soit épargnée !»
répéta Madame Martins comme un douloureux écho. Tout à coup, Madame Martins, qui était restée à la fenêtre, peut-être dans l'espoir de voir réapparaître Gisèle, s'écria
« Mon mari !»
Ces deux mots, accompagnés de ce cri sourd d'angoisse, en disait long sur les rapports intimes des deux époux. M. Martins, en effet, apparaissait dans le jardin, aux côtés de Françoise qui revenait.
« Il vient me chercher !»
Et elle se sauva.
« Je l'emmène, je ne veux pas que vous vous rencontriez. »
Pallas eut le temps d'apercevoir le magistrat classique à favoris et lèvres rases, l'ancien juge qui continue à être au tribunal dans toutes les fonctions de la vie. Pas un homme, mais une conscience qui ne cesse d'examiner les autres, et toujours avec la plus grande sévérité. Un de ces légistes que la loi Béranger a rendu malade et qui ne trouve des circonstances atténuantes à rien ni à personne. Il s'en rencontre encore comme cela en province. On les y laisse, du reste, et ils ne le pardonnent point au genre humain. Monsieur et Madame Martins partirent, laissant derrière eux une immense impression de tristesse. Françoise vint rejoindre Pallas dans le salon.
« Madame Martins, fit-elle, avait hâte de rentrer. Elle n'a même pas pris le temps de te présenter son mari. »
« Monsieur Martins, du reste, n'a pas insisté. C'est un ours. »
« Tu sais, ils ne sont pas heureux. Ils ne s'aiment plus. »
Et elle étreignit Pallas.